bouleversement ou changement dans le programme. Je vous expliquerai un peu plus en détail ce soir. À la conférence générale, le déroulement de tout le séminaire. Simplement, en ce qui concerne les cours de texte, alors nous aurons toutes les matinées, jusqu'au vendredi y compris. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, c'est ça ? 5.
Et dimanche ?
Dimanche, c'est OK. Jusqu'au vendredi, nous étudierons ce texte qu'on vient de vous distribuer et qui s'appelle Amispet Birushalayim. On l'appelle aussi depuis Amispet Agadol. Et c'est l'oraison funèbre que le Rav Kook, le père, avait prononcée pour la mort de Herzl. Alors j'ai choisi ce texte, pas en relation directe avec notre sujet, les faux messies, vous comprenez pourquoi, mais parce que dans ce texte, le Rav Kook a mis en forme de façon systématique la relation entre les deux traditions messianiques de la tradition juive, Machiav ben Yosef et Machiav ben David. C'est depuis donc un des textes les plus classiques, disons, le plus organisé concernant ce sujet, bien entendu les sources à travers les siècles sur ce sujet et les deux traditions qu'il représente sont extrêmement nombreuses et j'aurai l'occasion au fur et à mesure de les citer. Est-ce que vous arrivez à m'entendre quand même à la fin? Peut-être la dernière fenêtre. Non, la dernière fenêtre, fermez-la et puis laissez la porte ouverte. Bon. On va essayer de travailler quand même. Ça y est ? Alors donc, nous aurons cette étude toutes les matinées. L'après-midi, à 6h30, nous aurons un tout autre texte que vous aurez, on vous distribuera cet après-midi. Qui est le 11e et le 12e chapitre des Mishneh Torah de Maïmonide sur Hilchot Melachim. Et nous étudierons assez systématiquement l'enseignement de Maïmonide sur la définition de la fonction du Messie. Alors, l'étude de l'après-midi, nous aurons 4 séances, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Alors, lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, et mercredi, c'est moi qui ferai l'étude. Et mardi et jeudi, ce sera M. Prince. Donc on sera... Enfin, les nécessités du calendrier font qu'on sera comme ça en sandwich. Alors, vous suivrez donc le texte de Maïmonide avec moi. Et Michel Prince donnera une illustration dans la Gemara sur ce qu'enseigne Maïmonide. Dimanche matin, nous aurons un tout autre texte, puisque le dimanche, le public est celui qui ne vient pas forcément dans la semaine. Un texte de la Gemara de Sanhedrin, sur les préoccupations des rabbins du Talmud concernant le temps messianique, sur les, disons, les craintes, les soucis, les problèmes.
Dimanche matin.
Dimanche matin. C'est pas parler plus fort. Hein?
Il y a quelque chose dimanche matin.
Oui, je vois que ce n'était pas prévu là, mais ça arrive presque chaque fois. Alors, notez que dimanche matin, à 10h30, nous aurons encore une séance de clôture. Bien, pour ceux qui suivent les conférences du soir, je vous donnerai donc les explications nécessaires ce soir au début de la conférence. Alors, pour les...
Okay. Est-ce que je dois appliquer le cours de l'histoire? J'ai besoin pour mes élèves, pour ce que je fais moi, je vais venir le soir, sauf le soir, mais toi tu fais la conférence.
Mais et non, non, il n'y a pas de conférence le jeudi soir.
Ah, il n'y a pas de conférence
non.
Le jeudi soir. Bon. Et mardi soir...
Attendez, voilà, je vous ai dit, cet après-midi à 6h30, lundi, et mercredi à 6h30, c'est moi qui ferai cours.
Oui, et après.
Après quoi? Ben, vous verrez ça ce soir, je ne sais pas encore.
Mais
je ne sais pas encore. Dans tous les cas, jeudi soir, il n'y a pas de conférence. Bien, alors pour les cours du matin, nous aurons besoin, le cas échéant, de deux chapitres dans le livre de Bréchit, le chapitre 38 et le chapitre 39. Alors, à partir de demain, si vous voulez, vous amenez un livre de Bréchit si on a besoin de voir des références. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer? Ça y est, tout va bien? S'il n'y a pas ces textes, suivez un sur deux et vous en aurez demain. Alors, écoutez, étant donné que le texte est assez long, Et je propose de l'aborder directement sans qu'il soit nécessaire d'avoir des introductions préalables. Au fur et à mesure, nous verrons ce qui se passe d'après le texte. Est-ce que vous entendez quand même quand je parle assis ou pas? Non? Oui? Ça va? Ça va pas? Je comprends pas pourquoi ils ont pas organisé la salle autrement. Hein? Non, peut-être que pour demain, je vais leur demander. Ça va pas être facile. Bien sûr, tout le monde a des chaises, on peut commencer. Bon, il manque une chaise, allez la chercher, mettez-la. Tout ce texte commence d'abord par la citation d'un verset assez énigmatique apparemment et qui se trouve dans le prophète Zacharie. Vous avez la référence en bas de page au chapitre 12 et où il s'agit d'un deuil qui sera un grand deuil pour Jérusalem. Alors je commence d'abord par lire le verset et on abordera tout de suite l'explication. Bayom Ahou, en ce jour-là, Igdal Amisped Birushalayim, je traduis Misped par deuil. En réalité, Misped, c'est le discours qui marque qu'il y a un deuil. Je crois qu'on dit ça aux raisons funèbres, ma chère Gazi. Il y aura un grand deuil à Jérusalem. Le deuil grandira à Jérusalem. Que Misped, Adadrimon, Bebikrat, Megidon. Comme le deuil de Adadrimon, nous verrons qui est ce personnage par la suite, Bebikrat, Megidon, dans la vallée de Megiddo. Hazal Amrou. Nos maîtres ont enseigné, à propos de ce verset, chez Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel est un des traducteurs de la Bible en araméen. Vous savez qu'il y a plusieurs targumim. Targum, ça veut dire traduction de l'hébreu en araméen. Ensuite, le mot de targum a pris le sens beaucoup plus général de traduction en général. D'ailleurs, les targum, ça veut dire traduire. Je ne sais pas si vous avez connu des juifs qui s'appellent Torgeman. Et à l'origine, c'était Meturgeman, et c'est devenu Torgeman, ça veut dire qu'ils étaient des interprètes. Alors, ils ont gardé le nom de leur métier. Et il y a le Targum de Onkelos, on dit aussi Tirgum, pour dire traduction en général. Le Targum de Yerushalmi et le Targum de Yonatan ben Uziel. Alors, lorsque Yonatan ben Uziel a traduit la Bible en araméen, selon l'enseignement qui est cité ici, Tirgem Neviim, il a traduit aussi les prophètes. Ve Nisdar Zera Eret Israël, vous avez des mots en abrégé, en rachetevot, mais je les lis en même temps. Et lorsqu'il a traduit ce verset-là, de l'hébreu en araméen, et en général le Targum n'est pas forcément une traduction littérale mot à mot, mot à mot, mais il arrive que ce soit une paraphrase midrashique. C'est-à-dire qu'en même temps, le traducteur explique, et en expliquant, il fait allusion à des midrashim qui sont connus d'autre part. Alors, lorsqu'il est arrivé à ce verset, Nisdar Zera Eret Israël, toute la terre d'Eret Israël a tremblé. Le mot est un peu plus fort que le français trembler. Nisdar Zera, ça veut dire être secoué vraiment. Arba Meot Parsa, Arba Meot. 400 Parsa, c'est une mesure, je ne sais pas combien ça fait de kilomètres, mais enfin. La terre a été secouée lorsque Yonatan ben Uziel a traduit ce verset. Mishum deet mile de la mefarshan. Parce que, principe, il existe des mots que l'on n'explique pas. Mais mile, c'est en araméen, milim en hébreu, des mots, mais ça veut dire aussi des choses. Il y a des choses dont on n'a pas le droit de parler explicitement. Et voilà qu'en traduisant ce verset, qui fait allusion à un grand deuil qui concernera Jérusalem, il a expliqué ce qu'il fallait garder caché, et alors, de ce dévoilement, la terre d'Israël a tremblé. Ça va jusque-là? Top. Ve'ainu ha'ikra. Et en particulier, il y a des choses que l'on n'explique pas de façon explicite, en particulier ce verset, ha'ikra, de Amar Rav Yosef. Suivant l'enseignement de Rav Yosef, de Ilmale Tirgume, n'était sa traduction, la Yadar Mayru. On ne saurait pas de quoi il s'agit. Ça veut dire que si nous n'avions pas l'explication de Yonatan ben Uziel en araméen, de ce verset en hébreu, nous ne saurions pas ce qu'il veut dire. C'est clair jusque-là. Je traduis lentement jusqu'à ce que tout le monde soit assis. Ramrou, chez Ahmad Yonatan ben Uziel al-Arla, et alors on a dit à ce sujet que Yonatan ben Uziel, lorsqu'il a vu le résultat de sa traduction, Ahmad al-Arlav, il s'est dressé sur ses pieds, Ve'amare, il a dit, Ani shegiliti starecha livne Adam, c'est moi qui ai dévoilé tes secrets aux hommes. Galoui ve'yaduar lifnemi she'amar ve'ya olam, mais il est évident et connu devant le Créateur, celui qui a parlé, et le, littéralement, mi she'amar ve'ya olam, celui qui a parlé et le monde a existé. C'est l'olichbodi asiti, que je n'ai pas fait cela pour ma propre gloire, et l'olichbod betaba, ni non plus pour la gloire de ma maison paternelle, et là, c'est l'otarbe machloket beisraël. Mais afin que, en vue, qu'il n'y ait pas trop de machloket, de controverses, donnez-moi un autre mot pour machloket plus fort, de conflit, plus que polémique, machloket, en Israël.
Divergence.
Divergence. Top. Voilà, c'est très rapidement, ça va être beaucoup plus expliqué par la suite, mais je voudrais évacuer déjà l'aspect un peu énigmatique de ce premier paragraphe. C'est-à-dire, nous avons donc un verset qui fait allusion à un grand deuil qu'il y aura un certain jour, et puis voilà que ce verset a été traduit par le traducteur en araméen. Cette traduction dévoile le sens de ce verset, et le résultat a été un tel saisissement, lorsqu'on a appris le sens du verset, que le traducteur, Yonatan ben Uziel, a dû se justifier, et en disant, c'est moi qui ai fait ça, mais je ne l'ai pas fait pour ma gloire. Comment interpréter cela pour que tout le monde sache à quel point je sais lire en araméen ce qui est écrit en hébreu, mais pour, au contraire, diminuer les risques de machloket en Israël. Ça implique tout de suite que si ce verset n'avait pas été traduit, il y aurait une situation de fait, une situation naturelle, de risque, de controverse, mais il faut un mot plus fort que controverse, machloket, que ce verset essaye d'évacuer. Puisque Yonatan ben Uziel dit très clairement, quand ça arrivera cela, alors Israël sera tellement divisé en conflits que pour éviter cela, il faut expliquer à l'avance de quoi il va s'agir. C'est clair jusque-là ? Top. Et donc, on devine tout de suite que ce risque de brisure, de fracture, je ne sais pas comment dire, d'Eret Israël et du peuple d'Israël, à propos de ce qui est dit dans ce verset, concerne le sujet, c'est-à-dire l'événement messianique. Et donc, c'est notre problème, le risque d'affrontement entre les tenants de la tradition messianique de Joseph et les tenants de la tradition messianique de Judas. Alors, je vous avais prévenu que je ne ferai pas d'introduction, mais ce sera quand même nécessaire à la longue. Nous verrons qu'effectivement, pendant très longtemps, cette problématique qu'il y a deux identités messianiques, deux projets messianiques, tous les deux nécessaires, mais qui risquent d'entrer en conflit grave, a été cachée. Parce que c'est un problème de la fin des temps d'exil. Chaque fois que nous dirons à Harit Hayamim, la fin des temps, certains d'entre vous ont suivi ces études dans d'autres séminaires, ça ne veut pas dire la fin du monde. La fin des temps, Aharit Hayamim ou Ketz Hayamim. Ça veut dire la fin des temps de l'exil. Si vous vérifiez très soigneusement l'emploi de cette expression chez les prophètes, en particulier Isaïe, vous verrez que c'est toujours l'indication et allusion, cela vise la fin des temps de l'exil. L'expression classique de Ve'haya, il arrivera, Be'aharit Hayamim, à la fin des jours. On s'est habitué avec le temps, et je pense aussi que ça c'est venu un peu des catégories de l'eschatologie chrétienne plutôt que juive, que cette expression à la fin des temps, ça veut dire la fin du monde. Vous comprenez? Alors, pas de panique, la fin des temps, c'est la fin des temps d'exil, c'est pas la fin du monde. Cette expression, Khurban ha'olam, la destruction du monde, existe dans d'autres textes, dans d'autres catégorie, dans notre source. Mais ça ne veut pas dire non plus la fin du monde dans le sens banal, populaire du terme. Et voilà pourquoi, à la longue, on a fini par oublier cette problématique, que lorsque le dévoilement des événements de la fin des temps d'exil arriveront, il y aura une marloquette au sujet de la perspective messianique. On avait oublié qu'il y avait une problématique de cette nature, parce que le temps a été très long depuis le moment où les prophètes ont fait allusion à cela, et au risque que cela mènerait, nous avons toute la semaine pour explorer le plus grand nombre de sources possibles à ce sujet. Et Jonathan Ben Uziel a jugé qu'il était nécessaire d'avertir de cela, de telle sorte qu'on n'en perde pas la mémoire. Je dirais comme pour beaucoup de précautions qu'ont pris les sages d'Israël, ces avertissements n'ont jamais servi à rien, grosso modo. Mais enfin quand même, c'est très important, ça nous permet d'avoir un séminaire avec des sources. Alors, j'enchaîne sur le texte du Rav. Et tzarich lehavin, et il faut comprendre, mahu godel haester sheyesh bapasuk hazeh, quelle est l'envergure de ce qu'il fallait cacher, du fait d'être caché, de ce qu'on cache, je ne sais plus comment on dit ça en français, haester de l'occultation. Quelle est l'envergure de cette occultation qu'il y a dans ce verset? Shegila tirgumo, et de tel que son traducteur ou sa traduction l'a dévoilé, et là vous avez le texte, la traduction en araméen, qui est Misped Ahav, comme le deuil de Ahav. Ahav était un des rois d'Israël, rappelez-vous bien de cela. De Katal y était Hadarémon, que Hadarémon avait tué. Hadarémon était un roi araméen des peuplades ennemis d'Israël, du temps des rois d'Israël. Et Hadarémon avait réussi à, dans les guerres de Ahav, roi d'Israël, à tuer Ahav. Et il y a eu un grand deuil. Alors, le traducteur du verset de Zacharie nous dit, il y aura un jour un grand deuil à Jérusalem, comme ce grand deuil-là. Quel était ce grand deuil-là, dit le traducteur? C'était le deuil de Ahav. Ou Kemisped, Yoshiaou. Et comme le deuil de Josias, en français, okay? Yoshiaou, c'est la même chose, de Katal Yete, Paro Hagira, qui a été tué, lui, c'est un roi de Juda, qui a été tué par le pharaon, l'Égypte. Oui, l'ennemi du nord et l'ennemi du sud. Comme quoi, il n'y a rien de changé sous le soleil. Et Bebikrat Megiddo, dans la vallée de Megiddo. Ça veut dire qu'on nous avertit qu'il y aura un grand deuil, mais que ça s'éclaire par le grand deuil qu'il y a eu dans ces deux occasions-là, et c'est cela qu'il y avait à expliquer. Vela ma hayaze siyag, shelo yarbe machloket de Israël, et pourquoi a-t-on fait une barrière pour cacher le sens de cela, afin de ne pas multiplier les conflits en Israël? Et quel rapport tout cela avec ces secrets que l'on attribue à Dieu, des secrets qu'il ne dévoile pas et qu'il n'y a pas à dévoiler sans précaution? Ici, le Rav pose la question de l'étude. C'est clair jusque-là? Et voici que nos maîtres ont expliqué chez Espedze que cette oraison funèbre à laquelle il est fait allusion dans le verset, tel que l'a traduit le traducteur, « Iye al Mashiach ben Yosef Sheneherag » concernera le Mashiach ben Yosef qui sera tué. Je vous mets ça au tableau. Mashiach ben Yosef, je ne sais pas non plus comme ça, Sheneherag. C'est-à-dire, nous avons ici, vous avez toutes les références en bas de page, okay, pour chacune des sources. Et voilà que le Rav commence par dévoiler que la Gemara a expliqué qu'on a fait allusion à un grand deuil qu'il y aura un jour, qu'un personnage dont on avait oublié le nom, qui s'appelle le Mashiach ben Yosef, littéralement le Messie, fils de Joseph, sera tué. Alors il y aura un deuil. Dans cette même Gemara, il y a une divergence d'opinion. Je vous le signale en passant, si on a le temps, rappelez-moi, on reprendra ce problème. Les Rahamim ne sont pas d'accord. Ce grand deuil, certains disent, c'est quand le Machiav Ben Yosef sera tué. Il faudra se rappeler qui c'est, ce Machiav Ben Yosef. Et d'autres disent, non, c'est pas du tout ça. C'est quand le Yetzer Hara disparaîtra du monde. Alors il y aura un grand deuil. Bizarre. Hein? Au lieu qu'il y ait une grande joie, il y aura un grand deuil. Yetzer Hara, ça veut dire le penchant du mal. Hein? Et alors, cette controverse-là, est-ce qu'il s'agit du Machiav Ben Yosef? Est-ce qu'il s'agit du Yetzer Hara? Nous allons le laisser de côté provisoirement. On la reprendra vendredi matin s'il nous reste du temps. Qu'est-ce qui se passe?
Si par hasard il y a des gens qui veulent aller à ton séminaire à Jérusalem, en été, qui viennent te voir.
Entendez. Et voilà donc, cette petite parenthèse, je la referme tout de suite. Mais je vais quand même en ouvrir une beaucoup plus large. Je ne me souviens plus si, il y a quelques années, certains d'entre vous avaient assisté à un séminaire où nous avons déjà parlé du Machiav Ben Yosef d'une toute autre manière. Et malgré tout, nous allons récapituler dans ce séminaire-ci un certain nombre de choses que vous avez peut-être étudiées d'autre part. S'il y a des questions annexes, ça vaut la peine de les analyser. J'espère, Blinader, je ne sais pas si je peux faire la promesse qu'on arrivera à la fin du texte, dans tous les cas, vous le garderez soigneusement, puisque c'est écrit, ça vaut la peine d'être lu, comme dirait la Gemara. En tout cas, pour revenir à notre problème, je voudrais vous citer l'enseignement de kabbalistes contemporains au sujet d'une tradition qu'il y a dans les kavanot de la tefila, je vais traduire, du rite Sfarad d'après le Hari. Alors j'explique. Vous savez que nous avons deux rites, globalement, le rite Ashkenaz et le rite Sfarad, et lesquels se subdivisent d'ailleurs en plusieurs sous-rites, j'allais dire sous-titres. Mais dans un certain nombre de communautés, on a gardé l'habitude de lire le texte du Noussar Sfarad tel que le Hari, le grand maître de la Kabbalah de Safed, l'avait établi avec des kavanot, ça veut dire avec des intentions de lecture. Souvent, vous voyez dans les vieux livres, qui vont être d'ailleurs réédités, ils sont en train d'être réédités, le texte de la Tfila, et puis de temps en temps des parenthèses, avec en caractère rachi, c'est pas des commentaires, c'est des formules d'intention de lecture. Ça veut dire, quand tu lis ce mot-là, pense à ça. C'est clair. Alors, à un certain moment de la prière du Shmoné Esré, il y a sur l'expression « Vekise David Avdecha Mehera Tachin » et « Le trône de ton roi David » institue-le, Tachin, prépare-le vite. Okay. Cette partie de la prière du Shmoné Esré n'est pas formulée de la même manière chez les Sfaradim et chez les Ashkenazim. Ça vaudra la peine qu'on l'étudie en détail s'il nous reste du temps vendredi matin. Mais je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Alors à ce moment-là, lorsqu'on parle de la restauration du trône de David, il y a une intention de lecture qui est que il faut, sans rien formuler, mais en pensée, prier pour que le Machiav Ben Yosef ne soit pas tué. Alors il y a apparemment trois choses à comprendre. La première, qui sont déjà deux, qu'est-ce que c'est que ce Machiav Ben Yosef? On a toute la semaine pour ça. Okay. Et pourquoi doit-il être tué? Risque-t-il d'être tué? Et puis deuxièmement, si la Gemara dit qu'il doit être tué, pourquoi la Kabbalah nous demande de prier pour qu'il ne soit pas tué? C'est un exemple de controverse entre les kabbalistes et les non-kabbalistes. Vous voyez à peu près le problème. Or, cette kavana continue en disant qu'il ne soit pas tué par, et on connaît même le nom de l'assassin, et qui s'appelle Armilaus Arasha. Bon, alors, c'est très facile à décrypter. Armilaus, c'est le nom latin de Romulus, tel qu'il s'est, transformé à travers le temps et les langues. Okay. Et Armilaus Arachar, d'après le Midrash, d'après les Midrashim qui en parlent, ça sera le chef de l'état-major de l'armée de Rome, de l'armée de l'ennemi héréditaire de Jérusalem, Rome, dans les temps messianiques, c'est-à-dire dans les temps de la fin de l'exil. Alors retenez bien, pour cette parenthèse, nous avons un certain nombre d'éléments. J'ai un peu étudié la question parce que les différences entre le Noussar Ashkenaz et le Noussar Sfarad m'intéressent en particulier d'autre part. C'est un problème extrêmement vaste. Et j'espère que quelqu'un écrira là-dessus un jour, mais suivez mon regard. Mais sachez bien que chacune des différences en détail a une raison. C'est pas par hasard que les uns prient comme ça et les autres prient autrement. Très souvent, lorsque les commentaires du Noussar Sfarad citent le Noussar Ashkenaz, ils ajoutent « Ve'yesh la'em alma lismor ». Et ceux qui ne font pas comme nous savent pourquoi. Ils ont des raisons. Inversement, quand les Ashkenazim citent les Sfaradim, ils disent « Et nos frères Sfarad font autrement, mais ils savent pourquoi ». Ça veut dire, ne croyez pas que c'est des habitudes comme ça, c'est arrivé que. Il y a une raison globale, qui est que la prière des Sfaradim dans le monde extérieur, quand la dominante, c'est la descendance d'Ésaü, ne peut pas être la même que la prière... Qu'est-ce que j'ai dit? Sfaradim ou Ashkenazim? Hein? Ah, je me suis trompé. La prière des Ashkenazim, lorsque le conflit qu'ils ont à vivre, c'est le conflit entre Jacob et Ésaü, puisque la communauté Ashkenaz, c'est la communauté juive dans le monde chrétien, c'est-à-dire dans la civilisation d'Ésaü, ne peut pas être la même que la prière des Sfaradim chez, dans l'islam, puisque c'est la, ça, c'est la situation d'Isaac chez Ishmaël. C'est clair, c'est pas là. Donc, il y a des raisons très, très particulières. Ce qui, sur lequel se greffe un autre problème très important, sur lequel on pourrait disserter pendant très longtemps, parce que là, ni les historiens, ni les rabbins, je veux dire, les historiens et les rabbins ne sont pas d'accord entre eux, ils n'ont pas forcément d'accord entre eux, et c'est que l'origine de l'identité des communautés ashkénazes, c'est l'exil du premier temple qui n'est pas revenu au deuxième temple, alors que l'origine des communautés sfarades, c'est l'exil du deuxième temple qui n'est pas revenu... Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis encore trompé. C'est ça. L'origine des communautés ashkénazes, c'est l'exil du premier temple qui n'est pas revenu au deuxième, alors que l'exil des Sfarades, c'est l'exil du deuxième temple jusqu'à nous. Bon, c'est clair. Pardon? Oui. Eh bien, ça se rattache de façon ethnique, pas seulement ceux d'Alexandrie, tout le judaïsme yéménite, par exemple, a la même origine que les Ashkenazim sur ce point-là. Mais je reviendrai là-dessus vendredi peut-être dans les parenthèses. Ce que je veux dire, c'est ceci. Il y a eu des brassages de population incessants pendant ces 2700 ans d'exil, grosso modo 800 ans, le premier temple et le deuxième. Indépendamment de ces brassages de population qui ont fait que des familles d'une ethnie sont allées vivre dans l'autre et réciproquement, je veux dire exil du premier temple, exil du deuxième temple, il y a une grande dominante qui s'est cristallisée à travers les siècles. C'est que le monde s'est séparé en deux empires. L'empire chrétien d'un côté, l'empire musulman de l'autre. Et quelles que soient les communications qu'il y avait entre ces deux empires, il y avait quand même une barrière. Et toutes les communautés juives, quelle que soit leur origine ethnique ça veut dire les tribus, okay, c'est pas qu'ils étaient d'un autre peuple, mais d'une tribu différente, qui vivaient dans l'empire chrétien, ont fini par recevoir l'influence de la communauté qui était la plus forte et qui était la communauté ashkénaze, allemande. Et c'est la raison pour laquelle toutes les communautés juives de l'empire chrétien ont fini par prendre le rite ashkénaze, qui est le rite allemand. Or, cette communauté allemande était déjà très forte avant même le retour du deuxième temple. C'est clair, et nous avons des sources très précises là-dessus. Inversement, dans l'empire musulman, toutes les communautés juives, quelle que soit leur origine, exil du premier temple, exil du deuxième temple, ont fini par recevoir l'influence de la communauté la plus forte, je schématise considérablement, qui était la communauté espagnole. En Espagne même, il y avait des familles juives qui étaient déjà originaires de l'exil du premier temple, par exemple la grande famille d'Abravanel. Mais le rite espagnol, qui, quand je dis espagnol, ça veut dire judéo-arabe, hein, c'est formé avec les exilés du deuxième temple. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est considérablement schématique, c'est sujet à controverse, tout ce que vous voudrez. Mais c'est pour bien situer cela. Quelle était ma question? C'est que cette intention de lecture, de prière, que le Mashiach Ben Yosef ne soit pas tué, se trouve particulièrement dans le Sidour Sfarad. Rappelez-vous de cela. Okay, c'est bon. Et alors, nous aurons à le reprendre par la suite. L'élément, je crois, qu'il faut bien mettre en évidence, c'est que, indépendamment des problèmes historiques de l'origine ethnique, je dis par exemple, vous n'avez aucune idée à quel point il y a beaucoup plus d'analogies entre les juifs yéménites et les juifs ashkénazes qu'entre les juifs yéménites et les juifs sfarades, même si on croit, ce qui est faux, que la prononciation yéménite est sfarade, ce qu'elle n'est pas. Est-ce que c'est clair ? Et la dominante, c'est cela, pendant des siècles, 2000 ans d'histoire chrétienne, 14 siècles d'histoire de l'islam, les juifs étaient dans un environnement radicalement différent. Être juif chez les chrétiens ou être juif chez les musulmans, ce n'est pas du tout le même environnement. Est-ce que c'est clair ? Et ça fait des siècles. Ça vous explique pourquoi deux typologies sont apparues. Qui aujourd'hui, à mon sens, on le reverra dans les conférences du soir, ces deux typologies, à mon sens, en tant qu'Israéliens, sont caduques l'une et l'autre, parce que finalement nous sommes destinés à devenir des Hébreux d'origine ashkénaze ou d'origine sfarade, et on se marie ensemble, donc ça va vite. Okay ? Mais malgré tout, nous sommes encore dans un temps où ces deux typologies se sont cristallisées. Faites vite parce que... Et je dis cela parce que il y a deux fonctions très différentes dans l'économie de l'exil entre Jacob chez Ésaü et Isaac chez Ishmaël. Je pense que c'est clair. Or, il est bien évident, et là je crois qu'il n'y a même pas à analyser longuement, que l'identité existentielle du juif de l'exil en milieu chrétien a l'équation d'identité de Jacob face à Ésaü. Alors que l'identité existentielle du juif en milieu musulman a l'équation d'identité de Isaac chez Ishmaël. Et vous entendez bien la différence de vocabulaire. Jacob face à Ésaü, Isaac chez Ishmaël. Ce n'était pas la même problématique. Et ce n'était pas le même problème. C'est un sujet important pour lui-même, surtout qu'il devient caduque. Je pense que c'est clair. Est-ce que vous comprenez tout de suite que l'ordre historique, très important, le problème d'Isaac chez Ishmaël précède logiquement et chronologiquement celui de Jacob chez Ésaü. Ceci pour indiquer que le temps d'Isaac chez Ishmaël est clos. C'est-à-dire, le relais est pris par Jacob. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? En d'autres termes, il n'y a plus de diaspora sfarade. Parce qu'il n'y a plus de juifs en pays d'islam. Sinon, de façon symbolique, quelques-uns en Syrie encore, et vous savez dans quelle prison ils se trouvent, et quelques-uns encore au Maroc, et vous savez dans quelle insouciance ils se trouvent. Vous avez compris le... Mais tout se passe comme si le cycle sfarade de la diaspora est achevé. Et les juifs sfarades qui ne sont pas allés en Israël ont rejoint leurs frères ashkénazes en pays chrétien, tout simplement. Je pense que c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir au passé sfarade en Eretz Israël. Ça, c'est un autre problème. Vous comprenez la question ? Alors, je referme toutes ces parenthèses de parenthèses. Qui est que la kavana de prière, selon le Hari, qui, comme vous savez, s'appelait Ashkenazi, c'est pour ça qu'il a commenté le Sidour Sfarad, était que il faut demander que le Mashiach Ben Yosef ne soit pas tué par Armilaous Aracha. Et je vous rappelle l'explication du Midrash, des commentateurs du Midrash, qui est que c'est le chef des armées des temps de la fin des temps d'exil qui tenteront de tuer le Mashiach Ben Yosef, c'est-à-dire la résurrection messianique d'Israël. Or, les kabbalistes contemporains, je vais vous en citer un avec qui j'ai étudié personnellement ce problème, il est mort depuis, donc vous ne pouvez pas vérifier, mais vous pouvez demander à son fils, qui est encore vivant. Il s'appelle Chaim Shvili. Et il a expliqué ça comme ça. Je crois que je vous l'avais cité donc au moment de ce séminaire, je le rappelle très brièvement pour les autres. C'est que je ne sais pas par quel biais prendre ça. Il a existé de notre temps un chef des armées de la coalition entre l'Allemagne et l'Italie, c'est-à-dire Rome, vous vous rappelez de le Saint-Empire romain germanique, okay, contre le peuple juif et Israël, et comme par hasard il s'appelait Rommel. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'un Allemand va chercher comme nom Rommel ? Et comme par hasard et coïncidence, il va être le chef d'état-major de ce qu'on appelait dans la dernière guerre mondiale l'Afrika Korps. Vous vous rappelez de ça? Lequel a essayé 4 fois de suite, en venant de l'Égypte, d'entrer en Eretz Israël, et il avait en face de lui les armées alliées, avec une petite brigade juive, d'où sont sortis finalement tous les états-majors de Tsar. C'est-à-dire, si Rommel avait réussi à entrer en Palestine, comme on disait à l'époque, au temps de Hitler, il aurait détruit le Yishuv, il n'y aurait pas eu ni Medinat Israël, ni Tsahal, ni Shum Davar. Alors, pendant 4-5 fois de suite, l'armée italienne et allemande, surtout allemande bien sûr, les Italiens c'était ceux qui tenaient la marche arrière. Et alors là, a essayé de rentrer dans le Yishuv, et bien finalement, Rommel n'a pas réussi à tuer le Mashiach Ben Yosef. Tout ceci pour vous dire à quel point les Sfaradim savent prier, puisque leur kavana a été entendu.
Mais lui a été tué, je crois.
C'était l'objectif.
Lui a été tué.
Non, qui, Rommel?
Oui.
Bon, c'est un autre problème. Et alors, écoutez, nous avons le mot de Rome, Ken. Et puis voilà qu'il y a un Allemand qui s'appelle Rommel. Et tout simplement, et ça ressemble à Armilaus, Romulus. Et c'était le nom du général en question. Et je crois qu'un de ses enfants, d'ailleurs, oui, un de ses enfants a fait tchouva, je ne sais pas comment vous traduire ça, s'est repenti par rapport au peuple juif et rentré dans les ordres, machin, quelque chose comme ça. Alors c'est quand même bizarre. Ceci dit, je voudrais vous prévenir, on va toucher à des sujets énigmatiques. Dès qu'on parle du Messie, tout le monde entre en transe. Okay? Alors, il faut se calmer, ce n'est qu'une coïncidence. Mais je tenais à vous la signaler. Et d'autant plus que, coïncidence dans la coïncidence, si je lisais ça en hébreu et en remettant ça dans l'ordre, ça ferait El Rom, le dieu de Rome. C'est bizarre tout ça. Okay? Bon, alors on revient sur terre. Alors, il nous reste donc la dimension de cette parenthèse de la Gemara, et qu'est-ce que ça veut dire que ce deuil serait la fin du Yetzer Hara? Ça, notez-le dans un coin pour la question vendredi. Vetzarich Leavin Bichlal, et alors dit le Rav, c'est là qu'on arrive au fond du sujet, il faut comprendre Lama Nutzrichim Nishne Meshichim. Pourquoi avons-nous besoin de deux messies? Puisque le postulat du Rav, ici, c'est que ça va de soi qu'on attend un fils de David, qu'on attend le Mashiach ben David.
Okay. Je vais le mettre là, tant plus qu'il est en tête.
Et voilà qu'on nous parle, dans la Gemara, okay, d'un Mashiach ben Yosef. Cette controverse, nous allons la reprendre mercredi soir, dans la conférence du soir, dans un tout autre registre. C'est dans la controverse messianique que nous avons avec le christianisme. Simplement, je vous l'indique, pour que vous soyez un peu privilégiés, à l'avance, que cette controverse porte sur l'identification du Messie que les chrétiens définissent et reconnaissent. Et vous savez qu'il y a un problème insoluble en théologie chrétienne elle-même, la filiation par David et la filiation par Joseph du Messie des chrétiens. Mais vous devinez tout de suite que dans l'arrière-fond, il y a une carte d'identité messianique de la tradition juive, antérieure au christianisme, et qu'il y a là la désignation d'une typologie messianique très particulière dont je ne parlerai que mercredi soir, pour ne pas mélanger avec notre problématique à nous, puisqu'en fin de compte, les évangiles parlent de quelqu'un qui serait prétendant à être le Messie de David, mais qui a un père terrestre qui s'appelle Joseph. Rassurez-vous, ce n'est qu'une coïncidence, mais je tenais à vous la signaler. Je veux dire que la coïncidence, là, elle est trop grosse. Hein? Ça veut dire qu'on sait de quoi on veut parler, et on essaiera de décrypter ça de la manière la plus amicale possible pour nos amis chrétiens, mercredi soir. Il va y avoir des vibrations dans la salle, mais j'y suis pour rien. Alors, je reviens au problème. Le Rav pose la question. Il faut d'abord dévoiler et comprendre pourquoi nous avons besoin de deux messies. Et vous verrez qu'il y a souvent des allusions, jusque dans les versets, au fait que le mot de Messie est au pluriel. Par exemple, Al-Tigeru Bimshichai, au pluriel. ne portez pas atteinte à mes messies. Donc, ça veut dire, nous découvrons là un problème qu'il faut découvrir, que on était habitué à un personnage très très mystérieux, le messie par excellence. Et puis voilà qu'on nous parle du messie au pluriel. Et voilà qu'on fait allusion à une source où il y en a au minimum deux dans l'identification, Machiar ben Yosef, Machiar ben David. Et très rapidement, une petite introduction sur ce qui va suivre. Ça nous renvoie à l'origine des engendrements de l'identité hébraïque au temps de la famille des patriarches. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob. Jacob a eu 12 fils qui ont fondé 12 tribus. Mais parmi ces 12 tribus, comme le Rav va l'expliquer très en détail, qui chacune d'entre elles ont une fonction d'identité dans l'engendrement messianique, dans la perspective messianique, et ça m'amène à vous dire tout de suite qu'on peut donc parler d'un messie de Réhouben, un machiar de Réhouben, un machiar de Shimon, un machiar de Lévi. Celui de Shimon est très caché. C'est très dur en hébreu, Shimon, caché. Mais un machiar de Lévi, un machiar de Lévi existe, c'est le Kohen à machiar. Voilà un autre personnage qui s'appelle machiar, et on n'en parle pas souvent. Lorsque la société hébraïque fonctionne selon ses institutions normales et naturelles, il n'y a pas seulement le Melech HaMashiach, le roi Messie, il y a aussi le Kohen HaMashiach, le prêtre Messie. Mais ça, on a oublié. Et puis donc, de Issachar, de Zboulon, de toutes les tribus. On pourrait à la limite parler d'un Mashiach par tribu. Nous aurons dans un des cours prochains à lire 4 ou 5 lignes de la Gemara de 4 ou 5 lignes de la Gemara de Sanhedrin, où on se pose comme ça, en passant naïvement, la question, mais ce Messie dont on parle tellement, comment il s'appelle? Et alors, il y a plusieurs propositions. Et on nous dit, à l'école de Rabbi Antel, dans tel ou tel yeshiva, eh bien, il s'appelait, comme par hasard, d'un nom qui ressemble au nom du Rosh Yeshiva. Et il y a un verset pour ça, en plus. Et puis, on cite plusieurs hypothèses. Et ça voudrait dire que, non seulement, cette figure de proue des engendrements d'Israël qui s'appellera le Messie, le Fils de l'Homme, non seulement, il y en a un, typologiquement, par manière d'être Israël, c'est-à-dire par tribu, mais que ça va beaucoup plus loin, qu'il peut y en avoir un par grande famille, qu'il peut y en avoir un par Beth Amidrash, qu'il peut y en avoir un par Yeshiva. Et deux d'entre eux, deux de ces tribus, deux de ces dimensions d'identité étaient dominantes, avec deux fonctions importantes, la descendance de Joseph et la descendance de Judas. Et dans la descendance de Judas, cette identité de la royauté messianique était apparue avec David. D'où ces deux intitulés, Machiar ben Yosef et Machiar ben David. Et je vous parle de Joseph et Judas, de la famille des patriarches. C'est clair jusque-là? Il n'y a pas de question là-dessus? Top. Voilà donc, pour aller un peu vite, la question que pose le Rav. Il faut d'abord se rappeler de cela, que dans la mémoire de la tradition messianique classique, familière, eh bien, il n'y avait pas de problème. On nous parle du Machiar ben Yosef, on sait ce que c'est. Tout ce qu'il faut préciser, dévoiler, dont il faut se rappeler, c'est quelle est la fonction, anthropologiquement, de la manière d'être Israël, qui est celle de la tribu de Joseph. Et comme vous le savez, que Joseph n'a pas de tribu en particulier, puisqu'il a le privilège d'avoir eu deux tribus à travers lui, Ephraïm et Ménaché, que la tribu dominante était la tribu d'Ephraïm, on s'habituera à dire très rapidement le Machiar d'Ephraïm et le Machiar de Judas. L'un s'appelle Ben Yosef, l'autre s'appelle Ben David. Ça va jusque-là? Non. Mais pour reprendre d'ailleurs cette Gemara de Sanhedrin, rappelez-moi qu'en la fin, je voudrais vous faire préparer les textes, parce que c'est assez contemporain comme indication d'ailleurs, pour, si vous voulez, démythifier tout ce problème de l'identité messianique. Il s'agit du roi d'Israël, un point. Le roi d'Israël, ce n'est pas un roi comme les autres, si j'ose dire. Mais il y a donc des fonctions.